Frères et sœurs, quelques jours après avoir célébré la fête de la Toussaint et prié pour tous les défunts, nous sommes aujourd'hui conduits à méditer le grand et beau mystère de la résurrection. Que se passe-t-il donc au-delà de la mort? Que se passe-t-il réellement et concrètement? Cette question traverse de part en part la conscience humaine et elle revient chaque fois que s'impose devant nous l'évidence de la mort. Depuis un petit matin du premier siècle, dans l'aube encore naissante d'un jardin de Judée, les chrétiens de toutes les générations successives contemplent leur Seigneur ressuscité d'entre les morts. Et il cherche les mots pour exprimer cette espérance et pour la transmettre. Nous portons en nous le désir profond de connaître et de comprendre. Et Jésus, nous venons de le voir dans l'Évangile, prend au sérieux ce désir. Il n'hésite pas à répondre aux questions qui se posent et aux objections que n'a jamais manqué de susciter la foi en la résurrection. Dans l'histoire du peuple juif, la perspective de la résurrection avait commencé à émerger quelques siècles avant la naissance du Christ. Dans la première lecture, issue du second livre des martyrs d'Israël, nous découvrons l'une des premières expressions de cette foi nouvelle. Le contexte général est lourd et douloureux. Soumise de longue date à des occupations successives, la Judée subit désormais le pouvoir délirant du roi Antiochus IV Épiphane. Ivre de jalousie et d'ambition, ce dernier cherchait à recevoir de tous la vénération due à Dieu. Il imposa donc aux croyants juifs de renier la foi de leur père, en posant des actes contraires à la loi transmise depuis Moïse. C'est ainsi que nous rencontrons cette famille de sept frères, accompagnés de leur mère, qui ensemble opposent à la mégalomanie du roi une résistance héroïque et pacifique. Au moment où s'impose devant eux l'évidence toute proche du martyr, ce sont les mots de la foi qui jaillissent de leur cœur. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. L'idée de résurrection est toute nouvelle et elle surgit dans un moment de violence et de noirceur, comme une lueur qui empêche déjà l'obscurité de vaincre. Il faudra encore du temps à cette idée pour se développer, pour prendre corps dans l'esprit de ce peuple et pour devenir une réalité concrète. Ce long chemin exprime bien la manière avec laquelle Dieu conduit ses enfants à la découverte sans fin de sa présence dans le monde, ici et maintenant, pour commencer, et jusque dans son royaume. Lorsque Jésus se mit à prêcher, l'idée de la résurrection avait donc commencé à se développer, en particulier chez les pharisiens, mais elle demeurait encore abstraite pour de nombreux croyants, et certains d'entre eux s'y opposaient avec énergie et vigueur. Tel était le cas, nous l'avons entendu, des Sadducéens, dont quelques-uns viennent trouver Jésus et l'interpellent à propos de la résurrection des morts qui leur semble absurde et impossible. Pour le prendre au piège et pour illustrer leur raisonnement, ils ont trouvé cette petite parabole que nous avons entendue. Si une femme meurt sans enfant après avoir épousé successivement sept hommes qui étaient tous frères, avec lequel d'entre eux sera-t-elle mariée au moment de la résurrection? Nous pouvons, au moins car nous sommes fair-play, saluer la qualité de leur imagination. Et Jésus, contrairement peut-être à nous, les prend au sérieux, en leur répondant avec les mots de la foi. Il commence alors par souligner que la vie du monde à venir ne saurait être comparée à la vie présente. Les repères, les habitudes et les idées qui organisent notre existence terrestre se trouvent profondément transformées et, pour ainsi dire, disparaissent après la mort. Et celle-ci constitue à la fois une rupture et un commencement. Nous entrons dans une impasse si nous voulons établir une comparaison ou même une équivalence entre ces deux réalités. Pour autant, le langage humain peut nous servir à scruter le royaume que Dieu laisse déjà entrevoir. Et pour cela, Jésus conduit ses interlocuteurs à reprendre les écrits bibliques et à y découvrir le projet vital qu'il révèle. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent. À la manière de Jésus, nous cherchons toujours à lire et à relire les textes bibliques, à laisser retentir les paroles qu'ils contiennent et à recevoir d'eux la lumière de la foi. Reste ensuite à professer la foi aujourd'hui, sans craindre le défi que nous pose la raison. Selon la belle expression de Jean-Paul II, la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Tels les Sadducéens, nous portons en nous des questions, et notre foi peut rencontrer des contradictions, des doutes et même des remises en cause qui nous déstabilisent. Nous sommes alors conduits à approfondir la foi, à poser en vérité et en simplicité les interrogations qui nous tenaillent. Certaines d'entre elles ne reçoivent pas de réponse immédiate. Ne serait-elle pas alors le signe que la foi est une expérience vivante, exigeante certes, mais aussi profondément respectueuse de tous ceux qui la portent? Saint Paul demandait à ses frères chrétiens de Thessalonique de prier pour lui afin que la parole du Seigneur poursuive sa course. Il signifiait ainsi que Dieu lui-même ne cesse jamais d'agir dans le cœur des croyants et dans la vie de ceux qui se rassemblent en son nom. Puis Paul élargit sa prière en ces termes : que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Sans doute aimerions-nous parfois que les choses s'éclairent pour nous de manière définitive. Et pourtant, nous sommes invités à demeurer d'inlassables chercheurs de Dieu qui, ayant commencé à accueillir le mystère de la foi, continue à chercher. Amen.